2 Chroniques, chapitre 20, 21 à 22. 2 Chroniques 20, 21 à 22. Vous allez lire 21 et je lirai 22. Allons-y, 21, go! Commençaient les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ils furent battus. Seigneur, bénis ta parole en ce moment. Il faut que tu croies ce que je diminue, mais qu'en toute chose, honneur et gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Pendant que tu t'assois, encourage ton voisin, dis-lui félicitations. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des occasions de célébration pendant toute cette semaine. Et nous allons commencer avec le salut en Jésus comme étant une occasion de célébration. Comme étant une occasion de célébration. Le salut en Jésus. David disait dans psaume 51, verset 12, c'est le psaume de la confession où, après avoir été confronté par le prophète Nathan quant au péché qu'il avait commis avec Bathsheba, il a fait une confession qui l'a rendue publique. Mais au verset 12, il dit quelque chose de très intéressant. Au verset 12, dans certaines versions, c'est le verset 14, il dit ceci, « Rends-moi la joie de... » La joie de quoi ? La joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Pour David, le salut en lui-même était une occasion de célébration, une occasion de joie. Voici quelques vérités sur la célébration. J'aimerais que vous regardiez un peu cette image et que vous me disiez si ça vous rappelle quelque chose. Pas seulement les frères, demandez un peu aux sœurs. Est-ce que les sœurs, ça vous rappelle quelque chose? Les sœurs qui savent de quoi je parle, levez la main. Je sais que la plupart des frères, vous savez. Ok, d'accord. Ok. Et il s'agit de quoi? De ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Heureusement qu'on n'avait pas prévu une activité à 17h l'après-midi hier, à l'église. Je ne sais pas qui allait venir participer à cette activité. Ce que je sais seulement, c'est que quelques heures après 17 heures, il y a eu des cris, il y a eu des célébrations et peut-être il y a aussi eu des pleurs. Il y a quelques vérités qu'il faut connaître sur la célébration. Ces gens que vous voyez là n'étaient pas en train de célébrer le salut, mais ils célébraient une victoire. Et si vous regardez leur pays d'origine en Argentine, les gens ont rempli la ville de Buenos Aires. Simplement parce qu'il y a eu une victoire sportive. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des gens qui étaient en train de célébrer en Argentine, pas la majorité, tous ceux qui célébraient en Argentine n'étaient pas à Qatar. Mais ils célébraient en Argentine pour ce qui s'est passé à Qatar. Même si tu n'étais pas là il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha, tu as toutes les raisons de célébrer ici ce qui s'est passé là-bas. Et pendant 4 ans, cette célébration va continuer. Pendant 4 ans. Jusqu'à ce que... C'est 4 ans, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que dans 4 ans, ils vont essayer encore de récupérer la coupe. Mais pendant 4 ans, ils vont mettre des affiches partout. Champion du monde. Mais pour toi et pour moi, ce n'est pas 4 ans. Ça fait 2000 ans que nous avons mis champion. Champion à cause de notre meilleur buteur à nous qu'on appelle le Messie. Je parle de notre Messie à nous. Non, ne confondez pas. Je parle de notre Messie à nous. Ok. Je ne sais pas vous pensez à quel Messie. Moi, je parle de notre Messie. 2000 ans. pendant 2000 ans, il y a ça sur notre visage, sur notre front. Vainqueur, champion du monde, du ciel et de la terre, de l'univers. À cause de nous? Non. À cause de ce que lui a fait pour nous. Alors regardez, la célébration, ça fait partie de l'expérience humaine. Vous l'avez vu là, hier, on l'a expérimenté. Certains étaient pour l'Argentine, d'autres étaient pour l'équipe de France. Moi, j'étais pour certains joueurs de l'équipe de France. Et je suis content que l'un d'entre eux, à lui-même, en a marqué 4, parce qu'il représente le continent. C'est tout à fait naturel. Regardez ce que Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Et puis il va énumérer les choses pour lesquelles il y a un temps. Il arrive au verset 4 et il dit: il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, et un temps pour se lamenter et un temps pour danser. C'est-à-dire que la célébration fait naturellement partie de l'expérience humaine. Et pour nous chrétiens, célébrer, c'est un acte essentiel de l'existence chrétienne. C'est un acte essentiel de l'existence chrétienne. Dans Psaume 33, verset 2, la Bible dit: célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Et quand il parle de ça dans Psaume, il ne vous donne pas une suggestion, une recommandation, ou une idée, ou un conseil. Il l'a mis à l'impératif. Il dit: célébrez l'Éternel. C'est un ordre. C'est un ordre. Pasteur Claude, un jour, le vendredi passé, je crois que c'était la sœur Ivana qui était en train de conduire le moment d'intercession à l'organisation. Et à un moment donné, elle a dit: le pasteur Claude va nous conduire dans un moment de louange. Et j'ai réfléchi. Mais c'est toujours le pasteur Claude qui nous conduit dans des moments de louange. C'est comme s'il est attitré pour nous amener à célébrer Dieu. J'ai dit, mais il y a des fois, le pasteur lui-même, il a des problèmes. Il y a des fois, lui-même, il a des préoccupations. Il y a des fois, lui-même peut être hanté par une chose ou pour une autre. Mais c'est comme s'il est la personne attitrée au moment où il faut célébrer le Seigneur. Il va prendre sa guitare, il va entonner des cantiques et nous tous, nous allons célébrer. Comme si la célébration était devenue pour lui un mode de vie pour lequel, si vous avez besoin de quelqu'un pour célébrer, appelez-le. Vous comprenez maintenant pourquoi dans le texte de Chronique, Dieu avait dit: si je demande à un guerrier, peut-être il ne saura même pas quel chant chanter, il ne saura même pas comment est-ce qu'il va commencer. Si je demande à un cuisinier de le faire, peut-être qu'il n'a pas encore saisi l'importance de ça. Mais si je demande à un chantre, ce sont des gens qui passent du temps dans ma présence et il saura comment faire pour célébrer. Raison pour laquelle il a dit: écoutez, mettez tous les soldats, les généraux, les officiers derrière, mettez les chantres devant et je vous ordonne de me célébrer. Et leur célébration a impliqué la célébration de tout un peuple, de tout un peuple. Que tu sois cette personne pour laquelle, quand Dieu a besoin d'une célébration qui monte vers lui, il puisse dire: Jonas, célébrez-moi. Et que de ta célébration vienne la célébration des autres autour de toi. Célébrer. Un acte essentiel de l'existence chrétienne. La célébration était l'élément clé de la victoire de Judas. Dans ce passage-là, il y a 4 fois, dans 2 Chroniques 20, 4 fois où il cite la célébration. Avant même qu'il ne se retrouve devant le champ de bataille, et regardez, il devait aller sur le champ de bataille avant qu'il puisse voir la victoire se concrétiser, se matérialiser. Et c'est là qu'il devait célébrer, sur le champ de bataille. C'est pourquoi, regardez, quand nous avons proclamé l'année de célébration, je parlais avec ma fille Clarisse encore ce matin, qui m'a rappelé que je vous avais dit ça. Quand on a parlé de l'année de célébration, certains d'entre vous ont mal compris. Vous avez pensé qu'il s'agissait de l'année où il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés, où tout sera facile, tout sera simple. Loin de là. la célébration que nous avons lue dans le livre de Chroniques, c'est une multitude qui s'est liée contre Judas. De la même manière qu'une multitude s'est liée contre la RDC. On nous pille nos ressources, on nous met un embargo, nous-mêmes on ne peut pas acheter des armes alors qu'on est attaqué. On va récompenser ceux qui sont en train de violer notre intégrité territoriale. Une multitude, communauté internationale, voisins, etc. Une multitude. C'est dans ce cadre-là que Dieu dit, est-ce que tu me célèbres seulement quand je te bénis? Est-ce que tu me célèbres seulement quand tes études ont été payées? Est-ce que ta célébration, c'est seulement quand tu as expérimenté la guérison? Si c'est ça la célébration, même l'Argentine célèbre. Quelle est la différence entre ta célébration et celle de l'Argentine? Maintenant, si toi tu es l'équipe de France et qu'aujourd'hui tu me célèbres, là je saurai que ta célébration est véridique et véritable. Pourquoi? Parce que malgré l'absence de la coupe, tu as toujours le souffle de vie, tu as toujours les capacités sportives et que si tu l'as raté cette année, dans 4 ans peut-être tu vas la réussir. Le contexte de la célébration, c'était un contexte d'épreuves, de tests, de difficultés dans lesquelles Dieu dira, moi je vous ai dit, c'est moi qui vais combattre pour vous. Mais je voudrais que vous puissiez me créer l'environnement dans lequel je peux descendre pour siéger au milieu de votre combat afin que moi-même je puisse remporter la victoire et que je puisse vous la donner. Ça veut dire que l'année de célébration, c'est l'année dans laquelle, au milieu de la fournaise ardente, toi et moi, nous allons voir le 4e homme qui va descendre nous visiter. C'est ça, l'année de la célébration. Que Paul et Silas, jetés dans la prison, au lieu de se lamenter en disant « Nous, on croyait que tu nous protèges », ils ont chanté les louanges de Dieu. Une expérience chrétienne, elle était présente dans la victoire de Judas. Regardez, la célébration accompagne la victoire. Elle accompagne la victoire. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La célébration également entoure et elle suit la victoire. Je vous ai dit, pendant 4 ans, il y aura célébration en Argentine, comme il y en a eu en France pendant les 4 dernières années. Et pourquoi il est important pour nous de comprendre que l'une de nos occasions de célébration, c'est le salut? Parce que dès que vous comprenez que le salut a été acquis, eh bien vous aurez toujours une occasion de célébration. Toujours. La personne de Jésus est une occasion de célébration. Regardez ce qu'on dit de Jésus dans la parole de Dieu. Il est Dieu éternel. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dès le départ, lui-même une occasion de célébration. Il est le Dieu éternel, Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le Dieu éternel, Jean 20, versets 28 et 29. Thomas lui répondit, mais Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ce qui est intéressant, c'est que la question qui lui est posée de savoir, mais montre-nous le Père. Et Jésus dira, mais tout le temps que je suis avec vous, tu n'as pas su que c'est moi. Il est également le Créateur. Ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous, c'est l'objet de sa création à lui. Une occasion de célébration. Et certains d'entre vous pourraient ne pas comprendre cet attribut si vous n'avez pas un membre de famille, que ce soit votre père, un cousin avec qui vous êtes lié ou un oncle ou une tante qui possède quelque chose que les gens admirent. Si c'était votre père qui était le concepteur du stade de football où s'est passée la finale, vous avez une raison de dire, écoutez, on est ici chez mon papa. C'est pour ça que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, pourquoi? Parce que ça appartient à votre Père, le Créateur. Il est pourvoyeur de la création. Pourvoyeur de la création. Colossiens 1, 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Lui-même est avant toute chose. Mais tout ce que vous voyez de vos yeux subsiste en lui. Dans Hébreux 1, 3, la Bible dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il soutient toute chose que vous voyez. Quatrièmement, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Occasion de célébration. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, vous qui notez, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Cinquièmement, occasion de célébration, il est le sauveur de l'humanité. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi. Il a envoyé son fils. Un avis de recherche a été lancé. Qui va sauver l'humanité? Qui va sauver l'humanité? Sauveur. La mission de Christ est une occasion de célébration. Pourquoi? C'est une mission de réconciliation du Père avec le Fils. Jusque-là, tout ce que je vous ai dit sur Jésus, Dieu, ne nous concerne pas encore. Jusqu'à ce que je vous ai parlé de Jésus comme étant le Sauveur. Sa mission était de faire en sorte que, de Fils unique que lui il est, le Père qui va l'envoyer et le planter sur la terre, il devient une semence qui va se multiplier, de sorte que du Fils unique vient une famille qui appartient à la famille de Dieu. Jusque-là, il est le Créateur qui ne nous appartient pas. Il est celui qui soutient toutes choses, mais qui nous est étranger, jusqu'à ce que Christ décide d'accepter cette mission. Et regardez, il accepte la mission. Un, il est devenu la semence de la femme afin de détruire la semence du serpent. Depuis le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Sa mission de réconciliation est qu'il a été identifié à l'humanité en devenant pleinement humain. Pleinement humain. Regardez, toutes les religions de la terre, toutes les religions de la terre, retenez bien ceci, toutes les religions qui existent sur la planète Terre sont un effort de l'homme pour atteindre Dieu. C'est pourquoi il y a tout un tas de rituels. Il y en a qui vont prier 5 fois par jour. Ce n'est pas par plaisir, mais c'est par obligation. Il y en a qui peuvent manger certaines choses et certains ne peuvent pas manger d'autres choses. Il y en a qui vont se faire des incisions. Il y en a qui vont considérer des animaux comme étant des demi-dieux. Il y en a qui vont se faire des flagellations sur le corps pour plaire à Dieu. Des efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais lorsqu'on parle du christianisme, les choses sont complètement différentes. Dans le christianisme, c'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion et de miséricorde, qui regarde l'humanité et qui dit « Je ne peux pas vous laisser dans cette condition, je vais descendre moi-même à travers mon Fils et je vais vous sauver afin que tout ce qui est à moi soit à vous et tout ce dont je bénéficie, vous en bénéficiez également. » Et pour le faire, il fallait qu'il puisse s'identifier à l'homme. Pourquoi? Parce que celui qui a péché devait périr. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi et moi, on méritait la mort. Toi et moi méritions la mort. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un devait mourir ou quelque chose devait mourir. C'est pour ça qu'on prenait les béliers, on prenait les boucs, on prenait les animaux et il fallait les sacrifier devant l'autel. Et avec cette mort-là, le sang pouvait couvrir nos péchés. Couvrir nos péchés. Je parle bien de couvrir nos péchés. Mais il est venu un temps, et ça c'était l'ancienne alliance, il est venu un temps où maintenant Dieu dit, je vais prendre soin de ce problème une fois pour toutes. Mais quelqu'un doit toujours mourir. Il faut qu'il y ait effusion de sang. Raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont cherché une solution éphémère en prenant les feuilles des arbres qu'ils ont essayé de cacher leur nudité. Mais une fois que le soleil sort, eh bien, il y a un problème. Déjà, à ce moment-là, dans la Genèse et le commencement de toute chose, Dieu a dû tuer un animal et prendre la peau pour les recouvrir. Couvrir. Couvrir. Et le sang a dû couler. Mais quand Dieu décide de mettre un terme à cette dispensation des sacrifices, il envoie son Fils unique. Mais pour que le Fils puisse qualifier, il doit s'identifier. Les animaux mouraient, mais les animaux n'étaient pas des hommes. Donc, le péché n'était que couvert. Mais il fallait quelqu'un qui soit en pleine harmonie avec la création de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'identifie lui-même à Dieu, à l'homme. Et c'est ainsi que Jésus a dû venir vivre sur la terre, expérimenter ce que nous avons expérimenté, revêtir un corps d'homme et puis se donner en sacrifice lui-même. C'est pourquoi il dira ceci, « Ma vie, on ne me la prend pas. Moi-même, je suis capable de la donner. Je donne ma vie. » Et c'est ainsi qu'en entrant dans les lieux très saints, il n'a pas pris un bouc, il n'a pas pris un animal, il n'a pas pris un agneau, il n'a pas pris une quelconque bête. En entrant dans les lieux très saints, il s'est lui-même offert sur le sacrifice et il a dit, « Père, comme Isaac, je suis prêt. Vas-y, fais ce que tu dois faire afin que eux puissent également avoir accès auprès du Père. » Et c'est son sang qui n'a pas couvert nos péchés, mais qui a ôté notre péché. Ôté notre péché. Ôté notre péché. Ôté notre péché. Ça veut dire que quand toi tu viens à Dieu en rappel des péchés pour lesquels il t'a pardonné, lui il dit, mais je t'ai pardonné, tu as demandé pardon. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est à cause de Christ. 1 Jean 1,9. C'est toi qui rappelles ces péchés à Dieu. Dieu lui a dit, non, j'ai déjà donné Jésus-Christ. Et quand tu as demandé pardon, à cause de son sacrifice, ce péché-là n'est pas couvert. Il n'a pas simplement été effacé, il a été complètement ôté. Il n'existe pas. Ôté, ôté. Ne vis plus dans la condamnation. Parce que la condamnation n'est pas de Dieu. Il s'est identifié à l'humanité en devenant pleinement humain. Troisièmement, regardez. Il a porté le péché humain et est mort d'une mort substitutive. C'est un terme compliqué, simplement d'une mort en remplacement. Une mort en remplacement. Ésaïe 53, versets 4 à 6, dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et je voudrais que tu saches que s'il a porté tes souffrances, tu n'as plus de raison de rester toi-même et de t'infliger à toi-même des souffrances. La chose qu'il faut faire, c'est de lui rappeler simplement que c'est tes souffrances à toi, c'est lui qui les a portées. Laisse-le les porter. Vous vous rappelez l'histoire de la femme qui portait un fardeau et qui attendait qu'on la porte dans un bus. Et lorsque le camion est arrivé, on l'a prise dans le camion. Et pendant qu'elle était dans le camion, elle a gardé son fardeau sur la tête pendant que le camion était en train de les prendre. Certains d'entre nous, nous sommes encore à ce niveau-là. Christ a porté ton fardeau. Maintenant que Christ t'a fait entrer dans le camion du salut, eh bien dépose ton fardeau, puisqu'il l'a déjà porté. Dépose ton fardeau. Dépose ton fardeau. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui devait nous donner la paix est retombée sur lui. Pourquoi tant de dépression parmi le peuple de Dieu? Tant d'inquiétudes, tant de soucis, tant de préoccupations. Il y a même des tentatives de suicide et de mort. Mais il a payé ce châtiment pour nous donner la paix. Dis à ton voisin shalom, 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 shalom. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël avait pris shalom comme une salutation. Shalom, qui voulait dire la paix, la prospérité, la bénédiction, la grâce, la protection, l'avancement, que tout ce shalom soit à toi. C'est le prix que lui, il a payé pour ton shalom, pour ton shalom. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je n'ai pas voulu parler du fait que depuis le début de l'année, je souffrais de quelque chose qui a trait avec, je crois, la digestion. Pourquoi vous riez? Tu ne sais même pas c'est quoi, Eric? Qui a trait... Enfin, c'était un peu compliqué. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce que certains d'entre nous sommes des fois faibles. Ils disent, bon, aidez-nous un peu à comprendre. Si le pasteur lui-même est malade... lui-même, le pasteur, il est malade. Nous, on va faire quoi? Alors, j'ai gardé ça. Je me suis dit, bon, ça va, ce sera entre moi et Dieu. Toute cette année, depuis le mois de mars ou le mois d'avril, et pendant qu'on a commencé ce jeûne, j'ai dit à ma femme, je ne sortirai pas de ces 21 jours malades. Ça, je le garantis. Et je n'ai toujours pas voulu témoigner parce qu'il m'est arrivé de penser avant que j'étais guéri. Donc j'ai eu quelques jours de soulagement et puis c'était revenu. Quelques jours de soulagement. Je lui ai dit, non, si tu témoignes là, ça risque d'être dangereux. Et puis je me suis rappelé d'une chose. Mais la guérison est venue avec le paquet du salut. Donc ce n'est pas quelque chose d'aller supplier, de mendier à Dieu. Ça fait partie du cortège de bénédictions inclus dans le salut. J'ai dit, je sortirai de ces 21 jours guéri. Les amis, ça fait plus d'une semaine que je suis complètement guéri de ce dérangement. Complètement. 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 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Errants, et chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre nous étions en train de marcher ou de courir sans destination. Aujourd'hui, tout le monde va à Mbanzu, on voulait aller à Mbanzu. Aujourd'hui, tout le monde commence des boutiques, on veut commencer des boutiques. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat, on veut faire ça. On était errants, emportés à tout vent de doctrine, allant à gauche et allant à droite. Comme l'apôtre Paul, on croyait que persécuter les chrétiens, c'était ça, louer et adorer Dieu. Errants, 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 errants. Mais depuis Christ, depuis le salut, nous avons une destination. Le pasteur Pacifique l'a dit, le ciel, le ciel. Pasteur André nous a parlé de ces forteresses qui sont détruites. Mission de réconciliation. Alors les conséquences de l'acceptation de Jésus, ça c'est une occasion de célébration. Suivez-moi très bien. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez également Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Christ. Lorsque les gens des autres fois vous disent que vous, les chrétiens, vous êtes orgueilleux parce que vous croyez qu'il n'y a que votre Jésus, vous devez leur dire, c'est la réalité, ce n'est pas de l'orgueil. La réalité est qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. À moins que vous puissiez me citer l'un de vos dieux là, que vous êtes en train d'adorer, qui serait mort, passé, et qui serait revenu à la vie, et qui serait monté auprès du Père d'où il est venu. Si vous nous le montrez, peut-être on va reconsidérer, on va dire on n'est pas les seuls. Mais tant que vos dieux, les Mohammed et les autres, sont encore dans leur tombeau, et qu'on peut retrouver l'endroit où ils ont été enterrés, mais que le nôtre, le tombeau est vide, alors on vous dira que le seul moyen pour la vie éternelle, on est désolé, Bandugu Apenzi, il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. seul, seul, seul. Ni les soi-disant saints, ni les soi-disant anges, ni les soi-disant... Non. N'allez pas faire des « je vous salue » ni quoi que ce soit. Vous avez accès auprès du Père par Jésus-Christ directement. C'est-à-dire, il n'y a pas un service de protocole par lequel vous devez passer pour avoir une audience auprès du Père. À cause et grâce à Jésus-Christ, là où il est entré, nous entrons également, parce que le voile du temple a été déchiré. Nous entrons. Célébration. Jean 1,12. Maintenant, lui qui a fait ça, c'est la part que lui, il a faite. La question est la suivante. Est-ce que nous faisons notre part? C'est comme quelqu'un qui disait, mais il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas. Comment? Mais tu penses, votre Dieu là, vous dites que votre Dieu est bon, vous dites que votre Dieu est amour. Mais s'il est bon et s'il est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres? S'il est bon, s'il est amour et s'il existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui sont en train de mourir? Pourquoi? Et un homme très intelligent a répondu, est-ce que le savon existe? Et il a dit, oui, le savon existe. Alors il lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui sont sales dans le monde? Et la réponse était, c'est parce qu'ils n'utilisent pas le savon. C'est la même chose avec Dieu. Si tu vis loin de Dieu, tu vas expérimenter toute cette destruction-là. Et les gens qui commettent cette destruction sont des gens qui sont loin de Dieu et qui ne connaissent pas Dieu. Mais viens chez Dieu, tu vas expérimenter la paix, la joie, la guérison, tu vas expérimenter le salut, tu vas expérimenter toutes ces choses. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que l'obscurité, ce n'est pas la couleur noire. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Lorsque vous mettez une bougie dans une pièce, ça peut être une toute petite bougie. Elle suffit à chasser l'obscurité qui se trouve dans cette pièce-là. Il n'a suffi que de Jésus-Christ pour chasser toute l'obscurité et les ténèbres qu'il y avait dans nos vies. C'est tout. Le jour où le monde comprendra que Jésus est la solution et que nous utiliserons Jésus dans nos raisonnements, même politiques et administratifs, à ce moment-là, la lumière va briller sur la terre. C'est à ce moment-là que ça va se passer. Regardez, notre responsabilité, c'est quoi? Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Ni de la chair, ni du sang, etc. et de l'esprit. Mais regardez, il dit ceci. Elle a donné quoi? Vous ne m'avez pas compris. Elle a donné quoi? Être enfant de Dieu n'est pas simplement un titre. Moi, je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas simplement une qualité ou une qualification. Être enfant de Dieu, c'est quoi? Pouvoir. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous sommes adoptés par le Père. C'est une occasion de célébration. Et voici les bénéfices. Je voudrais que vous notiez ces bénéfices. 1. Occasion de célébration, bénéfice. 1. Tu as désormais une relation d'intimité avec le Père. Et la Bible dit dans Romains 8,15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Nous crions Abba Père. Romains 8,15. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Comme un enfant se sent libre de parler à son père, tu peux te sentir libre de parler à Dieu. Tu n'as plus besoin d'un protocole pour parler à Dieu. Tu peux parler librement à ton père, comme nous rassure la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand Anaël vient à notre culte anglophone, il n'y a pas encore les codimes à ce moment-là, et elle se trouve ici dans la salle. Et je sais que pour certains, ça vous a scandalisé un peu. Nous allons essayer de lui apprendre, ça vient avec l'âge, il y a certaines choses qu'elle va apprendre. Mais regardez, quand Anaël voit son père assis quelque part, pour elle, dans sa tête, ce n'est pas le pasteur de l'église qui est assis. Elle ne connaît pas ce concept-là. Elle ne sait pas que c'est le pasteur titulaire. pour les gens de l'organisation, elle ne sait pas que c'est le président 4 x 4, 8 x 8, ou je ne sais pas, certains ont même mis d'autres multiplications. Elle ne sait même pas que c'est l'écrivain ou quoi que ce soit. Pour elle, ça n'a rien à voir. Pour elle, c'est qui? C'est papa qui est assis là-bas. Donc, si vous, pour lui parler, vous êtes obligé de passer par les membres du protocole, elle, elle sait qu'à la maison, on ne connaît pas de protocole. Quand elle doit me parler, elle me parle directement. C'est pour ça que vous la voyez de temps en temps, elle vient là, elle s'assoit sur ma chaise. Des fois, elle prend l'eau que je suis en train de boire. Pourquoi? Elle s'adresse à papa. J'aimerais que ta relation avec Dieu soit aussi intime que celle-là. Que tu te sentes à l'aise, à l'aise, à l'aise. De lui parler, de l'écouter, de l'entendre, de lui dire des choses, des secrets, d'écouter son cœur battre, savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Comme Jésus disait, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Est-ce que toi, tu vois ce que ton Père est en train de faire pour faire ce que lui est en train de faire également? Que tu te sentes parfaitement à l'aise dans la présence de Dieu. Deuxièmement, Dieu te comble de tout son amour. Il te comble de tout son amour. Dans 1 Jean 3, versets 1 à 2, « Venez, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu. » Quelqu'un était en train de dire, je donnais des cours aux enseignants et il y a une enseignante qui disait « Mais pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?» Je leur donnais les 7 habitudes des personnes efficaces. Et une enseignante disait « Mon pasteur, soyons quand même sérieux, ça dépend quand même des circonstances, tout ce que vous enseignez là. » Je dis « Comment ça dépend des circonstances ?» Vous vous souvenez, elle a dit à ce moment-là, des gens comme Anaël par exemple, ma fille, des gens comme Anaël, elle part déjà avec la réussite. C'est sûr qu'elle va réussir dans la vie. Je dis, mais, en rapport avec quoi tu fais cette conclusion-là? Donc, dans sa tête, Anaël étant la fille de son père, donc, elle a déjà un avantage. C'était en partie vrai, parce que je lui ai dit, tout ce qui est au père est au fils ou à la fille, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, elle devra elle-même réaliser que si le Père a obtenu certaines choses, c'est parce que le Père se comporte d'une certaine façon. Et si elle est comme le Père, alors peut-être qu'elle aura les mêmes récompenses que le Père a obtenues. Raison pour laquelle Dieu, du haut des cieux, plutôt que de nous cacher le secret de sa réussite, il nous a livré le secret de sa réussite. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez comme moi, faites comme moi. Moi, dans mon niveau là, là où je suis, je n'ai jamais connu de défaite et il veut que nous puissions expérimenter la même chose que lui. Mais Dieu nous a comblés de son amour, comblés de son amour. Vous savez, je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous. Vous avez grandi sans connaître l'affection d'un papa. Papa est peut-être mort tôt. Et donc pour vous, pendant longtemps, ça a été difficile de comprendre le concept de l'amour paternel. Ou comme moi, papa était là physiquement. Mais il aimait, il semblait apprécier mes frères et sœurs plus que moi. Et donc, ça a créé en moi comme une faiblesse, comme un complexe, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cela arrivait. Pourquoi est-ce qu'il pouvait être là physiquement, mais que je ne pouvais pas bénéficier du même type d'amour que lui était en train de donner aux autres. C'est vrai. Mais ceux d'entre nous qui avons connu des papas pleins d'affection, des papas qui étaient là pour vous, qui pourvoyaient à vos besoins, qui vous amenaient à l'école, qui vous ramenaient de l'école, qui étaient là simplement pour s'assurer que vous aviez tout ce dont vous avez besoin. Retenez ceci, même ce papa terrestre-là, Dieu l'appelle « mauvais que vous êtes ». Vous, père, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et Dieu dit ceci, à combien plus forte raison, moi qui suis bon, ne vous donnerai-je pas toutes ces bonnes choses que vos pères terrestres, qui ne sont pas comme moi, sont capables de vous donner? Et je demande que Dieu puisse te donner la grâce d'expérimenter cet amour paternel qu'il est en train de manifester dans ta vie, qu'il manifeste dans ta vie. Et que quand tu réalises cet amour paternel, que ça, ce soit déjà une occasion de célébration pour toi. Célébration. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ceci, mais j'ai un père qui m'aime, je le célèbre. Je le célèbre, je le célèbre, je le célèbre. Troisièmement, Dieu prend désormais soin de tes besoins. Pourquoi ? Parce que c'est ton Père. Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent ni dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Ne valez-vous pas plus qu'eux ? » La réalité est la suivante. Si c'est un Père aimant, si nous sommes d'accord que ton Dieu, ton Père t'aime, ça veut dire que la chose que tu demandes, qu'il ne t'a pas encore donnée, il sait à quel moment tu vas l'avoir. Tu comprends ? Si il fait tarder ce que tu lui as demandé, c'est qu'il sait que pour le moment, tu n'en as pas besoin. Je suis venu ici et Anaël était en train de me demander « Papa, je peux jouer avec la Nintendo, je peux jouer avec la... » Des fois, c'est une question de vie ou de mort pour elle. Et quand vous lui privez de cela, elle commence à pleurer. Comme si elle allait mourir parce qu'elle ne joue pas à la Nintendo. Mais le papa sait que tu n'as pas encore besoin de la Nintendo. La chose que tu es en train de prier pour laquelle tu penses que ton existence en dépend, le papa sait à quel moment il va te la donner. Fais-lui confiance, célèbre-le, parce qu'au moment voulu, il finira par te la donner, cette chose-là que tu attends. Et je ne sais pas c'est quoi. Troisièmement, tu es devenu citoyen du ciel. Tu es devenu citoyen du ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20. Et j'aimerais vous dire ceci, être citoyen du ciel peut ne pas avoir une certaine connotation pour certains d'entre nous. Mais ceux d'entre vous qui avez déjà voyagé en dehors de la RDC, levez un peu la main. Vous avez déjà voyagé ? Ok, ça va, baissez la main. Parce que les autres vont penser qu'on est en train de se vanter. Non. Vous savez, des fois, vous allez dans un poste d'immigration. Vous êtes tous les mêmes. Chacun a deux pieds, chacun a deux bras, deux jambes, deux têtes. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous sépare ? Peut-être la couleur de la peau, ou rien de spécial. Mais vous allez voir la différence au moment où vous sortez un petit carnet qu'on appelle passeport. Le personnel d'immigration a l'habitude de regarder de quelle provenance est le passeport en question. Et ils lisent la nationalité. Les amis, je dois vous l'avouer, qu'avec notre passeport là, le nôtre là qui porte notre nom, il y a certains endroits, vous allez voir les autres, on les fait passer, parce qu'ils ont montré des passeports qui viennent d'un certain pays, mais vous, vous montrez votre passeport, on vous fait d'abord asseoir. Tu viens d'où ? Tu vas où ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi ? Parce qu'on associe ça au pays d'où tu viens. Mais il y a certains passeports, je vous assure, dès que vous montrez le passeport, même si vous vous appelez d'un nom africain, comme Obama, ou comme si vous vous appelez beaucoup dit quoi, mais le passeport est de ce pays-là. On vous laisse passer avec une telle rapidité, des fois on vous demande même, est-ce que je peux vous rendre service ? Mais notre passeport à nous n'est pas terrestre, notre passeport à nous est céleste, les amis. Ça veut dire que dans le monde spirituel, le passeport que nous avons nous donne accès à des endroits où d'autres personnes ne peuvent pas avoir accès. Occasion de célébration. Et cinquièmement, tu as été régénéré. La Bible déclare dans Jean 3, 6, « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Sixièmement, tu as la vie éternelle. Jean chapitre 11, verset 25, « Occasion de célébration. » Seigneur, moi je croyais que la célébration c'est seulement quand j'aurai mon visa. Je pensais que la célébration c'est quand j'aurai les premiers profits de mon emploi. Mais je n'ai pas encore réalisé que ce que je suis et ce que tu as fait de moi est déjà une occasion de célébration. C'est pour ça que quand Dieu parle de la célébration, il ne parle pas d'une suggestion. Il parle d'un ordre. Célébrez-moi. Si vous saviez déjà là où vous êtes. Jean chapitre 11, verset 25, et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Il vivra. » Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, verset 26. Et septièmement, l'un des bénéfices du salut, raison pour laquelle nous devons le célébrer, l'un des bénéfices du salut. Toute chose concourt à notre bien. Mais regardez ce que ce passage dit. Romains 8, 28, il dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de qui ? Ça ne concourt pas au bien de tout le monde. Ça concourt au bien de qui ? De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, ceux qui ont bénéficié du salut. Une histoire que je vous ai racontée il y a peut-être longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous en racontais deux. L'une, c'était, je ne sais pas si vous connaissez la vente aux enchères. Vous savez, c'est quoi la vente aux enchères? Donc, on met certains objets, tout un tas d'objets, et puis on dit proposer un prix. OK? Pour ça, par exemple, on dit OK, nous commençons la vente de ce micro à 100 $. Quelqu'un va lever la main. Moi, je vais l'acheter à 110 $. L'autre ici, moi, je vais l'acheter à 130 $. Ah, moi, je vais le prendre à 140. Et puis, quand il n'y a plus d'offres, on commence à compter. 150 $. Qui dit mieux? Qui dit 160? Personne, 160. 150, une fois. 150, deux fois. 150, trois fois. OK, le micro est vendu à 150 $. On remet le micro à la personne qui l'a acheté. Alors un richissime, un milliardaire est décédé. Et toutes ses richesses étaient là en vente. Plein d'objets d'art, d'une valeur inestimable. Tout ça était en vente. Et dans toutes ces choses qui étaient en vente, il y avait un tableau. Et le tableau, c'était le tableau qui était la représentation de son fils, le fils du milliardaire. Alors, la personne qui avait été chargée de vendre a dit, bon, avant que nous puissions commencer la vente de toutes ces choses que vous voulez avoir, de toutes ces choses que tout le monde veut avoir, il y a d'abord ce tableau. Le défunt a voulu simplement mettre ce tableau à la disposition de quiconque voudrait l'avoir. Et les gens demandaient le prix, c'est combien? Il a dit, non, ce tableau est simplement à celui qui voudrait l'avoir. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce tableau est gratuit. C'est la représentation du Fils. Et les gens ont commencé à rire. Ils ont commencé à... gratuit, le tableau de ce... Mais qu'est-ce que vous voulez que nous, on fasse de son Fils? Est-ce qu'on a... Nous, on a besoin de son Fils. On est venu acheter les frigos, on est acheté les voitures, on est acheté les maisons, les propres. Nous, c'est tout ce qu'on veut acheter. Qu'est-ce qu'on a à faire de son Fils? Et personne ne voulait, mais s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que ce tableau doit partir avant que je puisse procéder à la vente aux enchères. Ce tableau doit partir. Et puis finalement, quelqu'un qui se trouvait là-bas au fond a dit, bon, ça c'est quand même le fils du... Oui, c'est le fils du... C'est le fils du... Oui, c'est le fils du milliardaire. Ah, ça représente le milliardaire. Donc c'est l'image du milliardaire. Oui, c'est le fils du milliardaire. Okay. Non, moi je veux bien l'avoir. Ah, ok, félicitations. Et les gens ont applaudi simplement pour se moquer de lui. Il a pris les tableaux. On a remis le tableau. Et celui qui procédait à la vente aux enchères a dit, la vente s'arrête ici. Dans le testament du propriétaire, il a dit, celui qui a le fils a toute chose avec le fils. Ça veut dire toutes ces choses que vous vouliez acheter ne sont plus en vente. Ils vont avec celui qui a le fils. Ça veut dire quoi? Maintenant que vous avez reçu Jésus et que Dieu vous a donné Jésus-Christ, pour lequel vous n'avez fait aucun travail. Avec Jésus-Christ, il vous a donné toute chose qui vient avec lui. Ça veut dire que même pendant que nous sommes passés, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, ne priez pas comme quelqu'un du dehors. Vous n'êtes pas un mendiant qui passait dans la rue à qui on a dit « C'est ici qu'habite le pasteur André, si vous voulez lui demander, lui présenter les besoins. » Non. Vous êtes quelqu'un de l'intérieur qui a reçu le Fils, et parce que vous avez le Fils en vous, et le Père vous voit à travers le Fils, il dit « Tout ce qui est au Fils est également à vous. » Pourquoi? Vous êtes maintenant co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Occasion de célébration. Ça veut dire que chaque fois que tu as pleuré pour que Dieu puisse t'accorder quelque chose, Dieu te regardait en disant, mais pourquoi il pleure? C'est mon enfant. Il a le droit d'obtenir cela parce qu'il est de la maison. Héritier du Père et co-héritier de Christ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu es héritier du Père, co-héritier de Christ. Au temps opportun, Dieu te l'accordera. La dernière histoire, avant qu'on puisse passer le temps dans la prière, l'histoire que j'ai lue quelque part, où un monsieur avait son petit frère. Et son petit frère était extrêmement turbulent. Et à chaque fois, le grand frère était en train de lui donner des conseils. Écoute, arrête de faire ça, ne fais pas ça, c'est pas bien, etc., etc. Mais il ne comprenait pas. C'est comme moi. Moi, mon grand frère était assez sage. Moi, j'étais très, très turbulent. D'ailleurs, mes parents disaient, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Les trois autres enfants, ça va. Mais lui ici, qu'est-ce qu'on t'a fait pour avoir celui-ci ? C'est pour ça, ne jugez personne là où il est. Vous ne savez pas ce que Dieu lui réserve pour l'avenir. Moi, je me suis occupé, je m'occupe encore de mes parents aujourd'hui, malgré ce que j'étais. Turbulent, grave, grave, grave. Mon grand frère m'appelait petit fou, petit fou. Bon, peut-être il y a encore des séquelles qui sont restées, mais maintenant, vous ne pouvez pas m'appeler, je suis votre pasteur. S'il y a encore de la folie, c'est la folie de la foi, c'est tout. Folie de la foi, folie de la foi. Petit, ne fais pas ça, petit, ne fais pas ça. Et puis un jour, le petit est sorti. Il est allé quelque part, il s'est battu avec quelqu'un. Et dans la bagarre, et j'aimais la bagarre aussi, grand bagarreur. C'était un sport que j'aimais faire. Grand bagarreur. Je me souviens quand on était entré en fiancé avec mon épouse, il y a un véhicule qui a failli nous cogner pendant qu'on était en train de rouler. Et ma femme était assise à côté de moi, nous avons eu un petit choc. Quand je suis descendu de la voiture, au lieu de poser la question d'abord à ma future femme, est-ce que ça va, tout va bien, la seule chose que je voulais savoir, c'était, mon cher ami, est-ce que tu es plus fort que moi, sinon on va régler ça ici, tout de suite, on va régler ça ici, tout de suite. Le petit s'est bagarré. Et malheureusement, il y a eu un incident. La personne avec qui il s'est bagarré, décédée. Son t-shirt qu'il portait, la chemise qu'il avait, ensanglantée, plein de sang partout. Alors il a commencé à courir, et les gens ont commencé à le suivre. Les gens l'ont suivi. Il arrive à la maison, tout ce qu'il trouve, c'est le grand frère. Il a seulement regardé le grand frère a regardé les gens qui étaient en train de le poursuivre, il a compris ce qui s'est passé, il lui a dit, donne-moi ta chemise. Il a pris la chemise, il a porté vite la chemise, il a caché le petit frère qui allait se cacher quelque part. Et puis, il s'est tenu à la porte, et quand les gens sont venus, puisqu'ils se ressemblaient, c'était des frères, on a pris le grand frère, on l'a emporté, on l'a mis en prison, on l'a condamné à mort. Avant de mourir, il a demandé simplement d'avoir un papier. Si je peux avoir un papier que je puisse écrire à mon petit frère, j'ai quelque chose à lui dire. Et il a écrit à son petit frère. Il a dit, ce que je fais maintenant, c'est pour que la peine de ton mal que tu as commis ne retombe plus jamais sur toi, je le porte sur moi maintenant. Mais toi, maintenant vis comme moi j'ai vécu. Et il a laissé qu'on puisse donner cette petite lettre à son petit frère. On l'a pris, quelques jours plus tard, on l'a exécuté. Il est décédé. Et le petit frère a vu cette lettre et il a compris réellement ce que signifiait l'amour. Mais il était libre. Il n'était pas condamné. Son péché était retombé sur quelqu'un d'autre. Et lui qui était censé être blessé, parce que c'est ce qu'on allait lui faire, eh bien il n'a absolument eu aucune blessure. C'est le sacrifice que Christ a fait pour toi et pour moi. C'est le sang qu'il a porté. Alors, y a-t-il encore une occasion de célébration dans ta vie ? Est-ce que tu as une occasion de célébration ? Vous comprenez pourquoi les gens ont chanté « Il m'a sauvé, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé. Mon sauveur. » C'est pour ça que les gens ont chanté « Nous avons... » Et nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus. Chante aller, chante aller, chante aller.